gaat.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Médias et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Exemple aujourd'hui en deuxième heure, le nouveau Black et Mortimer, c'est de la BD. Et en musique, la nouvelle scène féminine et féministe. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, mais également Bertrand Chamerois et Varrock et Charles Decamp. Notre infomédia, d'abord présenté comme le Netflix à la française, la plateforme Salto existe depuis un mois. Premier bilan avec Thomas Fellin, son directeur général, qui sera dans ce studio. Les grands vainqueurs du confinement, ce furent les films du patrimoine, notamment Les Bronzés et les films des membres de la troupe du Splendide. Et bien justement, pour les fêtes, Canal+ lance une chaîne éphémère, Ciné+ Splendide. Nous serons avec Jean-Marc Jurami de Canal+, maître d'œuvre de cette programmation, avec des films mais également des documentaires inédits. Enfin, la comédienne Eva Darlan pour la parution de son roman Les Bruits du Cœur. Très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Eva Darlan a présidé le comité de soutien à Jacqueline Sauvage. Elle s'inquiète des conséquences du confinement et du terrible huis clos qui l'implique parfois dans les familles. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Des journalistes pris à partie, les pirates dans la ligne de mire, une série qui cartonne et la contre-attaque de Snapchat.
Mais on commence par les audiences. Que ont les Français regardé hier soir à la télévision?
C'est M6 qui est en tête avec la suite de L'Amour est dans le pré saison 15 qui signe son record de la saison. L'émission de dating de Karine Lemarchand a fédéré en moyenne 4 millions de personnes pour 17,9% de part d'audience. M6 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 27% de part d'audience. France 2 est deuxième avec la suite de la série britannique Bodyguard au compteur 3 300 000 téléspectateurs, soit 14,4% du public. C'est 700 000 personnes de moins et 3 points de moins que lors de son excellent lancement lundi dernier. Enfin, TF1 est troisième avec un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien. Mimi Mathy a attiré 3 200 000 personnes, soit 13,7% du public.
Culture Média.
Et puis Sophie Echène en a parlé dans ses infos. On commence évidemment ce journal des médias avec les violences commises contre des journalistes hier soir à Paris.
Ils étaient venus couvrir l'évacuation de migrants installés sur la place de la République. Mais la tension est rapidement montée avec les forces de l'ordre et plusieurs journalistes ont été pris à partie. Parmi eux, Rémi Buisine du média en ligne Brut. Il a l'habitude de couvrir des manifestations, notamment celle des Gilets jaunes. Mais hier, il a été particulièrement surpris de la réaction des forces de l'ordre. Il s'est retrouvé au sol où un policier l'a frappé.
Nous, en tant que journalistes, on a été entravés à de nombreuses reprises, on a reçu des coups, on a été bousculés, on n'a pas arrêté de dire qu'on était de la presse, mais ça changeait rien. On a même un policier qui, après que je m'en suis retrouvé au sol avec un pied sur ma jambe, qui me dit « j'ai 1m203, un autre ». Qu'est-ce que vous voulez que... Enfin, je veux dire, ce soir, c'est... Franchement, je suis assez choqué par cette soirée.
Rémi Buisine, qui était interrogé sur Twitter par un autre journaliste présent place de la République hier soir, Taha Bouhafs.
Et Taha Bouhafs, qui faisait partie de la délégation de journalistes et de leurs représentants, reçu hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, la rencontre ne s'est pas bien passée. Les journalistes ont tous quitté la réunion avant la fin prévue. Le ministre a essayé de nous endormir. Voilà ce qu'a déclaré le premier secrétaire du syndicat national des journalistes. Gérald Darmanin avait convié ces journalistes pour évoquer le projet de loi sécurité globale, dont l'article 24 est dénoncé de toutes parts. Il demande maintenant à être reçu par le Premier ministre.
Et la réunion précédait l'évacuation place de la République. Il y aura une nouvelle loi audiovisuelle l'an prochain.
Et cette loi a pour objectif de lutter contre le piratage. C'est ce qu'a révélé Aurore Berger hier. La présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale était l'invitée de Public Sénat.
Le premier pillage, c'est le piratage des œuvres. Et c'est pas ringard de vouloir lutter contre le piratage, c'est tout simplement nous assurer que les auteurs, les créateurs, les artistes-interprètes, les producteurs soient rémunérés pour les œuvres qu'ils nous permettent de voir et auxquelles ils nous permettent d'avoir accès. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre dans la loi en 2021. On veut absolument aboutir en 2021.
Avec cette annonce, le gouvernement veut montrer au monde de la culture qu'il ne l'oublie pas. Les industries du disque, du spectacle, du cinéma et bien d'autres encore sont frappées de plein fouet par la pandémie depuis plusieurs mois maintenant.
Dans le journal des médias, également ce matin, les radios françaises qui s'associent pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs.
Oui, près de 200 stations françaises, publiques et privées, ont conclu un accord accord cette semaine avec l'agrégateur britannique Radio Player. C'est lui qui a été chargé de créer l'application Radio Player France, qui regroupera les flux mais aussi les podcasts de toutes les stations concernées. Cette association rappelle celle de TF1, France Télé et M6 pour la plateforme de streaming Salto, dont on va parler justement dans quelques instants avec son patron Thomas Follin. En se regroupant, les 200 radios espèrent être plus fortes pour mieux s'adapter aux évolutions récentes, comme les enceintes ou les autoradios connectées et les sites de streaming.
Et Radio Player France sera lancé au printemps prochain. Le focus programme du jour, Charles, c'est un documentaire qui risque de faire parler.
Et si la promesse des énergies vertes n'était qu'un leurre? C'est la question que pose le documentaire La face cachée des énergies vertes, diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. On a beaucoup présenté les éoliennes ou les voitures électriques comme la solution pour limiter la pollution des centres-villes et la production de gaz à effet de serre. Mais pour les produire, il faut des métaux rares et leur extraction impacte négativement d'autres régions du globe, d'où cette idée d'un mirage écologique, comme l'a expliqué à Louise Bernard le co-réalisateur du film, Jean-Louis Pérez.
On a des pollutions multiples qui font que ce sont des zones entières de la planète qui sont polluées. Et comme de toute façon nous vivons tous sur la même planète, si l'on dépollue nos centres-villes parce qu'on a des voitures électriques mais qu'on pollue le reste de la planète, au final les gaz à effet de serre ne diminuent pas. Et c'est bien le paradoxe de cette transition énergétique finalement.
C'est un projet qui est basé sur le livre « La guerre des métaux rares » de Guillaume Pitron, qui a également co-réalisé le film, et il a fallu 2 ans pour le mettre en boîte. De longues enquêtes ont été nécessaires, il a été compliqué de tourner dans certaines régions, notamment en Chine évidemment. On a demandé à Jean-Louis Pérez si le produit final n'était pas un peu pessimiste.
Le but d'un documentaire, c'est de provoquer le débat. Le but du métier de journaliste, c'est de dire les choses, d'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues. C'est pessimiste. En même temps, nous, on n'est pas contre la transition énergétique. On dit attention, attention, il faut savoir où on met les pieds. Ce sont des industriels qui nous vendent cette transition énergétique. Peut-être qu'il faut aussi regarder cette transition énergétique dans sa globalité et puis peut-être réfléchir différemment.
La face cachée des énergies vertes, c'est ce soir à 20h50 sur Arte. Le documentaire est déjà disponible sur arte.tv et il le sera jusqu'au 22 janvier prochain.
L'Institut Pasteur est en colère.
La Fondation a décidé de porter plainte contre le réalisateur du documentaire complotiste Hold Up, dont on a beaucoup parlé. Ce réalisateur s'appelle donc Pierre Barnérias. C'est ce qu'a révélé hier Libération. Parmi les nombreuses affirmations farfelues que comporte le documentaire, l'Institut Pasteur est accusé d'avoir créé des souches antérieures de coronavirus. Alors c'est un nouveau revers pour Pierre Barnérias. Depuis la mise en ligne de Hold Up, de nombreuses personnalités qui y apparaissent ont dénoncé le propos du film et ont demandé à en être retirées. C'est notamment le cas de l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui s'est dit scandalisé par les thèses défendues dans le film.
L'une des dernières nouveautés de Netflix est loin d'être un échec.
Comment s'appelle ce jeu ?
Ça s'appelle les échecs.
Vous voulez bien m'apprendre ?
Je ne joue pas contre les inconnus.
Voilà, ça s'appelle Le jeu de la dame et 62 millions d'abonnés à Netflix en ont regardé au moins 2 minutes pour ses 4 premières semaines en ligne. C'est un record historique pour une mini-série de fiction, selon le géant du streaming. Il y avait une autre mini-série qui avait fait mieux, mais il s'agissait d'un documentaire. L'an dernier, 64 millions d'abonnés avaient donné sa chance à l'improbable succès Tiger King au Royaume des Fauves.
Pour contrer TikTok, Snapchat casse sa tirelire.
Le réseau social très prisé des ados va offrir 1 million de dollars par jour aux utilisateurs les plus populaires de sa nouvelle fonctionnalité qu'il a baptisée Spotlight. Snapchat s'adapte pour permettre aux internautes de diffuser leurs créations à tous ses utilisateurs si l'algorithme les juge suffisamment fédérateurs. Jusqu'ici, les vidéos du réseau social étaient réservées au cercle d'amis de ceux qui les publiaient.
1 million par jour. Et on finit ce journal avec la première interview de Joe Biden.
Le président élu accordera ce soir sa première interview télé depuis l'élection. Il a choisi NBC et ce n'est pas un hasard s'il parle aujourd'hui. Hier, le Michigan, l'un des états clés de l'élection américaine, a certifié ses votes, lui offrant ses 16 grands électeurs. L'administration a aussi entamé un processus formel de transmission du pouvoir, processus que Donald Trump affirme avoir encouragé, même s'il refuse toujours d'admettre qu'il a bel et bien perdu.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour va faire un premier bilan du Netflix à la française, la plateforme de streaming vidéo Salto, lancée il y a un mois. Nous serons là avec son patron Thomas Follin.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Elle s'est fait attendre, elle a pris du retard, mais la voici lancée. Cela fait un mois maintenant que Salto existe. Salto, c'est la plateforme de vidéo à la demande qui réunit trois grands groupes audiovisuels français, TF1, France Télévisions et M6. On y trouve des programmes inédits exclusifs, mais on peut surtout y voir ou revoir des films, des séries, des documentaires qui ont déjà été diffusés. Combien d'abonnés ont-ils déjà souscrit une offre Salto? Comment se passe l'entente entre les trois groupes? C'est important ça aussi. Et quels sont les axes de développement pour résister ou tenter de résister à Netflix, Amazon ou encore Disney+. Pour répondre à ces questions, Culture Média reçoit Thomas Follin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Salto. Vous n'êtes pas malade, mais je pose la question qu'on pose toujours en temps de Covid. Comment se porte Salto aujourd'hui?
Salto se porte bien. Peut-être pour vos auditeurs. Salto aujourd'hui réunit télévision et streaming en un seul endroit pour 6,99€.
Combien d'abonnés?
Donc aujourd'hui, c'est évidemment très prématuré de parler d'abonnés, mais ce qu'on peut dire, c'est que les premiers retours sont extrêmement prometteurs. On peut dire que Salto s'installe dans les foyers français. On a plusieurs chiffres qui viennent appuyer ça.
Allez-y.
Le premier, c'est que les abonnés Salto passent en moyenne 2 heures par jour sur Salto et jusqu'à 2h30 le week-end.
Pardonnez-moi, c'est un bon chiffre, c'est un mauvais chiffre, c'est un chiffre attendu.
C'est un très bon chiffre. On ne pensait pas atteindre ce chiffre aussi vite. Un foyer abonné se connecte en moyenne 10 fois par semaine. Pareil, en forte augmentation, on ne s'attendait pas à une telle régularité. On voit bien que les foyers adoptent Salto. Et puis évidemment, il y a plusieurs millions de vidéos vues depuis le départ. On ne pensait pas de la même manière qu'on aurait autant.
Alors, vous parlez des prix. Vous avez dit 6,99€, c'est l'abonnement de base. Il y a aussi un abonnement à 9,99€ et 12,99€,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est pour accéder sur plusieurs écrans. Ouais. Si vous voulez avoir accédé sur deux écrans simultanément, c'est l'offre audio à 9,99€. Si vous voulez, pour toute la famille, accéder sur quatre écrans simultanément, c'est l'offre tribu à 12,99€. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier mois est gratuit, donc vous pouvez profiter de Salto et découvrir Salto et vous faire plaisir.
Alors justement, combien d'abonnés vous avez un mois après le lancement, aux alentours de 100 000 euros, si on est bien informé, c'est ça?
Alors, 100 000 abonnés. Donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est que c'est évidemment prématuré de parler de chiffres, pardon. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, Salto, les premiers retours dont je vous parlais, ils sont prometteurs. Ils valident un pari audacieux de Salto. Ouais. Réunir télévision et streaming en un seul endroit. Ça, c'est dans le top 10.
Et ça, vous l'avez dit.
Sur le top 10 aujourd'hui, sur les marques qui fonctionnent le mieux, vous avez aussi bien des marques de streaming inédite, exclusif à Salto. Vous avez El Embarcadero, cette série espagnole réalisée par le réalisateur de la Casa de Papel. Ils étaient 10, l'adaptation du roman.
On va parler des programmes après. Ce que je veux savoir, c'est sur le nombre d'abonnés qui sont abonnés gratuitement, parce que c'est une offre d'essai, quel est le taux de conversion? Je ne sais pas si c'est le terme exact. Combien de personnes qui l'ont pris gratuitement se disent « Allez, je reste, je m'abonne et je paye et j'envoie mon numéro de carte bleue ».
Donc c'est un système de cohorte. Donc évidemment, il faut suivre cohorte par cohorte. C'est encore trop tôt pour communiquer là-dessus. C'est prématuré, mais sans problème, je viendrai vous en reparler dès qu'on aura suffisamment de recul.
Avec grand plaisir, et ça fait très plaisir, puisqu'habituellement, les plateformes restent toujours très secrètes, notamment quant à leurs chiffres. L'exemple le plus notable étant Netflix, qui ne communique jamais sur ses chiffres. L'accès à Salto est payant. Ce n'était pas forcément l'idée de départ, c'était ce que laissait entendre Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. C'était sur Europe 1, il y a un peu plus de 2 ans. Nous étions en septembre 2018.
Je crois que l'idée de Salto, c'est de faire une plateforme qui aujourd'hui n'existe pas. Notre priorité, c'est évidemment de devenir la première plateforme numérique gratuite. Je dis notre priorité à France Télévisions.
Vous, Thomas Follin, vous venez d'M6. Vous souhaitiez également que Salto soit gratuite.
Alors aujourd'hui, on voit bien que les modèles économiques autour de la vidéo, autour de la télévision, se diversifient. Les plateformes sont arrivées avec des services par abonnement qui viennent diversifier tout le financement des contenus aujourd'hui. Donc il est assez naturel pour des grands groupes audiovisuels de diversifier leur modèle et d'aller vers du payant.
C'est naturel, mais Delphine Ernotte ne disait pas ça il y a 2 ans. Est-ce que le but de Salto est d'être rentable? J'imagine que oui. Et quand est-ce qu'il sera rentable? C'est quoi votre objectif? Je trouve plus le mot, pas votre cahier des charges, votre parcours, comment on appelle ça?
En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on vient de se lancer il y a un mois. Ouais. Tout juste, et que notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des Français. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des millions de Français qui attendent les propositions que l'on fait sur Salto. Je pense évidemment à toutes les grandes marques de la création française. Jusqu'ici, elles n'étaient pas disponibles en streaming en France, en intégralité. Maintenant, grâce à Salto, elles sont disponibles en intégralité en France. Donc il y a une véritable attente des Français pour ça.
Avant qu'on parle des programmes, il a fallu près de 2 ans et demi pour lancer Salto, 2 ans et demi entre l'annonce de l'accord entre TF1, M6 et France Télévisions et la mise en place en ligne de la plateforme, c'était il y a un mois. Le lancement a été repoussé à plusieurs reprises. Dans quelle mesure ces retards ont pénalisé le lancement de Salto ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces retards, aujourd'hui, ils sont liés à des contraintes d'autorité de concurrence, parce que ce sont 3 grands groupes qui se mettent ensemble. Et on a vraiment pu démarrer... Moi, j'ai finalisé la constitution de mon équipe en janvier dernier. Il a fallu 9 mois pour sortir ce projet-là. Donc, évidemment, on est très heureux. J'en profite pour remercier les équipes qui ont été extrêmement mobilisées pour faire ça, parce qu'évidemment, autant de...
Vous n'avez pas répondu à ma question. Dans quelle mesure ça vous a pénalisé ? Est-ce que vous n'auriez pas préféré le lancer plus tôt ? Et est-ce que vous ne pensez pas avoir eu du retard à l'allumage ? Je pense notamment à Disney Plus, qui s'est lancé plus rapidement.
Jusqu'ici, le streaming était l'apanage des CSP+, urbains et du jeune public. Ce que l'on voit bien, c'est que sur ces derniers mois, l'évolution des pratiques numériques ouvre totalement ce type de consommation au grand public. Et on le voit bien aujourd'hui dans les premiers retours que l'on a sur Salto. On voit, 82% de nos abonnés sont en dehors de l'Île-de-France. Ils sont répartis équitablement sur l'ensemble de la France. On a également 25% de nos abonnés qui ont plus de 50 ans. Évidemment, ça reste une offre très jeune, mais parce qu'on a 60% des abonnés qui ont entre 25 et 50 ans sur la plateforme aujourd'hui.
Je souris parce que ce sont des infos très intéressantes, mais ça ne répondait pas à ma question.
C'est qu'aujourd'hui, on adresse une population qui n'était pas adressée jusqu'ici en streaming. Donc en fait, on intervient au bon moment parce que les plus sceptiques des pratiques numériques accèdent désormais à ce type de service.
Voilà la réponse à la question. Je vous en remercie. Qu'y a-t-il dans Salto ? La réponse juste après ceci.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Thomas Follin, le directeur général de Salto. Salto, cette plateforme de streaming, et pas seulement, qui regroupe les groupes TF1, M6 et France Télévisions, et qui s'est lancée il y a un mois. On va s'arrêter quelques instants maintenant sur les programmes, le cœur du réacteur de ce que propose Salto. Une bande-annonce, votre bande-annonce, assez originale, la preuve.
It's me from Grand Canyon.
Découvrez Salto, la nouvelle plateforme française.
Le Made in France, c'est bien, mais c'est pas assez big for me.
Justement, Salto propose des grandes séries américaines.
State, pas assez worldwide for me.
Et des thrillers nordiques, des comédies canadiennes et même des pépites belges.
Là, yes. Là, oui, les pépites belges. T'es pas net, hein? Tu me rends son bazar, là.
Échange de blousons aussi. Et c'est justement pour vous qui êtes polyglotte ou presque que nous avons créé Salto, avec des séries inédites, exclusives, cultes du monde entier et même en VF, if you need.
Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir sur Salto ?
Sur Salto, 10 000 heures de programmes en streaming. Comme je disais en introduction, meilleur de la télévision et du streaming. En streaming, 10 000 heures. Tous les genres de programmes. Donc, évidemment, les grands classiques, cinéma, séries. Mais on va également avoir des documentaires, des magazines. Aujourd'hui, ces autres genres représentent jusqu'à 35%. Donc, on voit bien de la consommation. Donc, on voit bien cette grande variété dans la proposition.
Quelle
sur ces 10 000 heures, on va avoir toutes les grandes marques de la création française. Sam, Capitaine Marlowe, Alex Hugo, Infidèle, Laetitia. Toutes ces grandes marques, elles sont disponibles en intégralité. Et c'est en exclusivité sur Salto. C'est important parce qu'aujourd'hui, à un instant T, vous avez en ce moment 3 épisodes de Marlowe. Ouais. Là, ce que l'on vous propose, c'est toutes les saisons de Capitaine Marlowe en intégralité. C'est vous ça dites, qui fait la différence aujourd'hui.
Vous dites en exclusivité, est-ce qu'il y aura par exemple une série qui marche très très fort sur France 2, 10%?
Alors 10% est disponible aujourd'hui sur Salto. Vous avez toutes les saisons sur Salto de 10%.
Et je vous pose la question à dessein parce que 10% est également sur Netflix. Donc ce n'est pas de l'exclu encore.
Alors aujourd'hui, on vient d'arriver, il y a un mois. 10%, ça fait un certain temps que c'est sur le marché. Netflix l'a acheté en son temps. Néanmoins, elle reste disponible sur Salto également.
Mais à terme, ce que vous avez envie de faire, c'est de faire que toutes les grandes séries qui soient sur la 1, sur la 2, sur la 3, sur la 6, sur TF1, soient en exclus sur Salto.
Les grandes marques de la création française ont vocation à être en exclusivité sur Salto, et en intégralité.
Il n'y a pas seulement des programmes français, il y a aussi Desperate Housewives, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'Américains, de Belges, pour reprendre votre bande-annonce, ou d'Espagnols ?
Ce qu'on a voulu faire sur Salto, c'est de pousser toutes ces grandes marques doudou, ces grandes marques qui font partie du quotidien télé des Français.
Les marques doudou ?
Les marques doudou.
Ah, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Ah, ouais, c'est plutôt sympa.
Ça commence à quand, les marques doudou ? Est-ce que les enfants, c'est une marque doudou ? Non.
Downton Abbey. Ouais. Desperate Housewives. Seinfeld, Parks and Recreation, Malcolm, toutes ces marques que l'on connaît qui font partie de notre culture télé.
Mais je vous interromps aussi... une seconde. Les fans de plateforme adorent pouvoir voir en VO. Est-ce qu'on pourra voir Seinfeld en VO ? Est-ce qu'on aura le choix ?
Alors, VO et avec des sous-titres, ouais. Évidemment, vous pouvez regarder tout ça en VO. Ce qu'il faut voir, c'est que vous parliez de séries du monde entier. Parce que ce que l'on a souhaité faire sur Salto, parce que le public français est curieux, c'est une plateforme qui est pensée pour le public français, on est allé dénicher des séries partout dans le monde. Je peux vous parler de Looking for Alaska, qui est une série américaine, mais aussi Evil, Becoming a God, les séries britanniques avec les deux séries de Stephen Frears qui sont excellentes, quiz sur la triche dans Qui veut gagner des millions en Angleterre, ou bien Very English Scandal avec Hugh Grant. Voilà, ça, je vous invite à les regarder, elles sont formidables.
Alors, pour vous regarder, puisque vous invitez les auditeurs et auditrices à aller vous regarder, il faut aller sur son ordinateur ou sur sa tablette. Quand est-ce qu'on pourra voir Salto depuis sa box ?
Alors aujourd'hui, faut avoir en tête que déjà 30% de la consommation se fait sur le téléviseur également. Effectivement, il vous suffit d'un écran et d'une connexion Internet pour accéder à Salto. Donc sur votre, on est accessible sur Apple TV, on est accessible sur Android TV. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de téléviseurs qui sont compatibles Android TV. On est disponible en Chromecast. Ouais. On sera dans les prochaines semaines disponible au travers de la TNT via l'HBB TV. Donc ça, on sera le seul service disponible en HBB TV via
Qu'est-ce
la TNT.
Qu'est-ce que c'est ?
En fait, aujourd'hui, sur la TNT, vous avez moyen d'accéder à des services interactifs. Sauf qu'aucun service interactif ne s'est développé dans cet environnement, puisque c'est un environnement de broadcaster.
D'accord, la technologie existe, mais personne ne s'en servait jusqu'à présent.
Exactement.
Et là, vous allez vous en servir.
Et là, on va s'en servir, donc on aura Salto disponible via la TNT.
Sur la TNT. Vous m'avez pas répondu. Quand est-ce que les fournisseurs d'accès à Internet, plutôt quand est-ce qu'on verra Salto sur les box, sur votre box Bouygues, Free, Orange ou SFR ?
On va poursuivre le déploiement sur le téléviseur. On a signé un opérateur, donc je communiquerai sur cet opérateur quand on arrivera au moment du déploiement. Mais on a aussi signé avec un certain nombre de constructeurs. De grands constructeurs
télévision. Il faut le dire, c'est quand on a envie d'avoir sur sa télécommande, comme il y a Netflix ou Amazon, il y aura Salto un jour. Ça sera quelle marque ?
Vous verrez quand les marques arriveront.
Vous ne pouvez pas le dire. On va parler aussi du montant de financement, ce qui va y avoir des créations originales que va faire Salto. Ou est-ce que vous allez faire que récupérer des programmes ?
Alors, on ne fait pas que récupérer des programmes, puisque comme on vous l'a dit, on va chercher plein de nouveaux programmes dans le monde entier. Mais pas que, on investit également dans de nombreuses productions françaises. En ce moment, on a en train de tourner, on a Germinal. Germinal, c'est un projet évidemment de grande envergure qui revisite le classique d'Émile Zola. Et donc ça, c'est un projet que l'on fait avec France Télévisions, La RAI et Beninger Studio.
Mais là, je vous interromps, parce que même si c'est gros, le montant consacré par Salto au financement des créations, c'est 250 millions d'euros jusqu'en 2022, si je suis bien informé. Ça paraît prodigieux, 250 millions d'euros. Mais à titre de comparaison, Netflix, c'était 8 milliards et demi et Disney+, c'est 20 milliards d'euros. Comment on peut lutter quand on est comme ça, le petit pousset ?
Il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que Salto est en France avec une offre unique. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la création française, toutes ces grandes marques qui sont disponibles, le seul endroit où vous les avez, c'est sur Salto. Aujourd'hui, vous mentionnez en termes d'audience, par exemple, L'amour est dans le pré. Ouais. Eh bien, le prochain, qui a fait un record hier soir, le prochain épisode de L'amour est dans le pré est déjà disponible sur Salto. Comme je disais, meilleur de la télévision et du streaming. Donc, la télévision est enrichie sur Salto. Donc, vous avez tous ces prochains épisodes qui sont disponibles. Ouais. Sur les feuilletons quotidiens, tout ça, c'est disponible. C'est unique. C'est le seul endroit où vous le trouvez, c'est sur Salto.
Juste un mot, parce qu'il ne va pas être content, Nicolas Taverneau. Le prochain épisode, L'amour est dans le pré, donc c'est pas la peine d'attendre lundi prochain. On l'a déjà sur Salto.
venez sur Salto, vous découvrirez le prochain épisode. Mais c'est pareil pour Balthazar, mais c'est pareil pour vos feuilletons quotidiens. Ici, les deux prochains épisodes de Ici tout commence, Plus belle la vie, Demain nous appartient, ils sont tous sur Salto, d'ores et déjà, 48 heures avant leur diffusion. C'est la télévision qui s'enrichit. Pourquoi ? Parce que Salto, aujourd'hui, lève les contraintes de rendez-vous et de programmation traditionnelles. Parce que Salto s'adapte au style de vie, au mode de consommation des Français aujourd'hui.
Dernière petite question rapidement, comment les chaînes, puisque vous travaillez avec les chaînes, pourquoi les chaînes sont ravies que les choses passent avant chez vous et non pas au même moment ? Est-ce que c'est pas grillé à la politesse ? Quand on voit l'énergie que M6 a rassemblé les ménagères de moins de 50 ans devant L'amour est dans le pré, de savoir que c'est passé avant, est-ce que ça grille pas un petit peu, ça obère pas un peu leur audience ?
Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes s'adaptent au mode de consommation des Français. Et donc, il faut ouvrir les yeux. On consomme de manière différente. Et donc, il y a un public, j'évoquais tout à l'heure le fait que 60% du public de Salto a entre 25 et 50 ans. C'est considérable, c'est tout le jeune public aujourd'hui. Eh bien, grâce à Salto, ces grands groupes arrivent à toucher toutes ces jeunes publics avec leur nouveau mode de consommation.
Merci beaucoup Thomas Follin et bravo pour cet enthousiasme. Vous êtes le directeur général de Salto qui n'a qu'un mois d'existence. Faut-il le rappeler ? Dans un instant, on va parler d'une nouvelle chaîne éphémère. Elle s'appelle Ciné Plus Splendide. Elle rassemble plus de 60 films des acteurs de la bande du Splendide. On sera avec le directeur général adjoint des antennes et des programmes payants du groupe Canal+. Qu'est-ce que ces titres sont longs ? Ça veut dire qu'ils s'occupent de tout, sauf du gratuit et du foot. C'est Jean-Marc Jurami. À tout de suite.
Merci. Puis bonne chance surtout.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Jean-Marc Jurami.
Bonjour Philippe Vondel.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint des antennes et des programmes payants du groupe Canal+. En clair, en gros, vous occupez de tout, sauf du sport et du clair. On va parler de cinéma avec une initiative que vous venez de prendre, que vous allez prendre pour les fêtes, donc que vous avez prise, le lancement d'une chaîne éphémère. Elle s'appelle Ciné Plus Splendide. C'est du 7 novembre au 27 décembre. C'est quoi cette chaîne ? C'est quoi l'idée ? L'idée vous est venue pendant le confinement ?
Alors un peu avant, un peu plutôt pendant le premier confinement, il se trouve qu'on avait prévu un Ciné Plus de Funès pendant, pour le 1er avril qui était l'exposition à la Cinémathèque. Ouais. Et on s'est rendu compte évidemment que pendant le premier confinement, on a connu un succès phénoménal avec ces films de Louis de Funès. Et donc, non pas qu'on misait sur un deuxième confinement malheureusement, mais on se dit que dans le contexte de toute façon sanitaire qu'on connaissait, c'était important d'amener un peu une immense Madeleine de Proust à nos abonnés. Et donc on a développé avec Studio Canal, qui est notre studio et qui a énormément de films du Splendide dans son catalogue, une offre d'une soixantaine de films extrêmement réjouissante. Et donc, pour la première fois surtout, Les Bronzés à la demande, c'est une première puisque vous savez que Les Bronzés ne sont diffusés normalement qu'en télé gratuite, traditionnellement, puisque ça fait un carton à chaque fois que ça passe. Et là, pour la première fois, on va pouvoir avoir Jean-Claude Duss à la demande.
Alors on va entendre une sorte de bande-annonce de luxe. C'est plus qu'une bande-annonce, c'est un florilège à base de répliques cultes.
C'est vraiment Les Bronzés ici.
Mais si vous êtes prêts ?
Attendez.
Ben vous me reconnaissez quand même,
Jean-Claude Duss.
Ce soir, je vais conclure. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul.
Ah oui, ouais.
Quel est le défaut principal de Bernard ?
Égoïste.
Oh. Eh ben, ça s'arrange pas.
T'as couché avec ma femme ?
Bah oui.
Poussez-vous, ça va le gicler. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est du sérieux.
Bronzé intégral, marchez à l'ombre et faites-vous la totale.
À l'amitié.
Splendide, c'est plus de 60 films pour rire ensemble sur Famille.
Donc les trois Bronzés en multidiffusion à la demande, c'est absolument une première à la télé française, on connaît Les Bronzés. Mais il y a aussi tous les films du Splendide, comme Le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre alors sur ces 60 films ?
Alors, il y aura une soixantaine de films. Donc, il y aura effectivement l'intégrale des Bronzés, mais on va retrouver une grosse sélection de films. Alors, c'est pas toujours avec le Splendide au complet, parce qu'ils n'ont pas fait tant de films que ça. Hein. Mais par contre, on a pris tous les films où ils apparaissent, où ils sont soit réalisateurs, soit acteurs principaux. On va retrouver Pino Simple Flic. Moi, mon film préféré, c'est Mes meilleurs copains avec Christian Clavier. Les Babacool, La Totale, Pour cent briques, t'as plus rien, Une époque formidable. Bref, vraiment, tous les grands films dans lesquels on voit apparaître l'équipe du Splendide.
Pour se faire plaisir, on va entendre un autre moment culte, c'est dans Marche à l'ombre, Michel Blanc, Gérard Lanvin et les renards.
C'est toi François ?
Oui, c'est moi.
Ça va pas ? J'ai très très froid.
Ah mais ça va s'arranger.
T'as fermé la porte ?
Oui, pourquoi ?
Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah mais c'est normal ça, c'est la saison.
Ah bon ?
Venez si tu veux, hein, parce que les plantes sont graves, là, il y en a pour un moment.
T'es sûr?
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Bon, j'essaie de dormir un peu, là.
Ah non, non, j'ai peur qu'il neige.
Bah, s'il neige, je te réveillerai.
Tu promets?
Bah oui.
Allez, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein.
Ouais, mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois.
Oui. Voilà.
C'est tellement drôle, on rit encore, j'ai les dents qui poussent, j'avais oublié, film de Michel Blanc. Absolument. En 84. On va parler de cinéma tout à l'heure, il n'y a pas que du cinéma, il y a aussi la pièce de théâtre, Le Père, oui, Noël est
absolument
une ordure, et puis des documentaires.
On a fait un documentaire inédit, qu'on a donc produit pour cette chaîne, et qui revient sur, avec Gérard Jugnot, sur la carrière de Gérard Jugnot.
Et aussi un doc en trois parties, un documentaire, Blié, Le, oui, Comte, Tavernier, Trois vies de cinéma. C'est une conversation à bâton rompu avec ces trois grands metteurs en scène. J'ai choisi un extrait de l'épisode 2. On va entendre Patrice Lecomte et Bertrand Blié. C'est Lecomte qui évoque ses angoisses pendant le tournage d'un film.
Est-ce que ça vous fait ça, à vous aussi, quand on a le scénario, on commence à tourner, on a le plan travail, on sait que tel jour on fait la station-service? Si je vous pose la question, c'est parce que moi j'ai toujours, sur tous mes films, une scène, généralement une scène, qui est ma bête noire.
Que tu fuis.
Que je fuis. Alors je dis à l'assistant, mets-la plutôt vers la fin du tournage. Mais c'est complètement con, parce que pendant tout le tournage, je me mine en disant, putain, il va falloir que je tourne cette scène. T'as ça, toi, des scènes, non, que tu redoutes plus que d'autres?
Non, pas tellement, non. Je redoute tout.
D'accord.
Oui.
L'humour pince sans rire de Bertrand Blié, c'était un documentaire initié par vous, c'était une commande?
Absolument, ou... c'est une commande, et donc on cherche toujours à illustrer, à éditorialiser fortement nos chaînes, hein, sur Ciné+, parce qu'il y a des chaînes linéaires et des chaînes délinéaires, donc là on mélange les deux, hein, sur ce projet. Il y a à la fois sur Ciné+, sur l'ensemble des chaînes Ciné+, linéaires, on retrouve des contenus des Bronzés, et donc ce documentaire qui doit passer demain, je pense, sur Émotion.
La troisième partie, j'ai regardé avant, c'est demain, mercredi, sur Ciné+, Émotion, à 19h30,
absolument,
et tous les épisodes sur MyCanal.
C'est sur MyCanal, bien sûr, intégralement pour le consommer quand vous voulez.
Et vous avez en tête la programmation, vous savez qu'on passe le doc sur Jugnot, Jugnot, une vie de comédie.
Alors il est déjà disponible sur MyCanal, vous pouvez, ouais, déjà le voir, et je n'ai pas la diffusion en
antenne.
Moi
je peux vous dire, parce que je, ouais, me dis, vous êtes quand même des petits vicieux, il passe le soir de Noël, et je me suis dit, c'est vraiment l'hommage au Père Noël est une ordure, le 24 décembre,
voilà,
à 20h,
bah oui,
on veut le
soirée
faire exprès, on n'y arriverait pas.
Absolument, ouais, ça doit être fait exprès quand même.
Et ça a bien réussi. Vous restez avec nous, Jean-Marc Jurami, on va encore parler de cette chaîne éphémère et de plein d'autres choses autour du groupe Canal, ouais, parce qu'il se passe plein de choses. À
avec plaisir.
Suite.
Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez, assez.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Marc Jurami, qui dirige en gros les antennes et les programmes payants du groupe Canal+, on parle de cette chaîne Ciné+ Splendide, du 7 novembre au 27 décembre, chaîne éphémère. Techniquement, ça se passe comment? Il faut s'abonner, il faut déjà être abonné, combien ça coûte?
Alors, c'est une chaîne digitale qui fait partie de l'offre Ciné+. Donc, quand vous êtes abonné à l'offre Ciné+, vous avez accès à cette chaîne. Et ce qu'on a fait là, dans le contexte sanitaire qu'on connaît, comme on l'avait fait d'ailleurs un peu dans le premier confinement, notre actionnaire, notre président, nous ont autorisé à donner accès à cette chaîne à l'intégralité de nos abonnés Canal+. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à Canal+, et que vous recevez Canal+, en ce moment, vous avez Ciné+, et ça jusqu'à la fin du mois de décembre.
Ah, c'est cool.
Ça nous a semblé être la moindre des choses, et d'autant plus que ça leur permet de découvrir cette chaîne, dont on est assez fiers, et qui va faire du bien dans la période.
Et ça permet également de découvrir Gérard Jugnot, juste pour le plaisir, un extrait de Pinot, Simple Flic, qu'il a réalisé en 84. Il doit faire une manœuvre avec l'estafette de la police dans une rue étroite.
Bien garé, là. Mais ça passe large, là. Attends, je te guide. Il en passe deux, là. Allez, sur moi.
Ils se rendent pas compte.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, merde. T'as de mon côté, ça passait.
Il y a deux côtés sur un car, Pinot.
Ouais, mais il y a les rétroviseurs aussi, chef.
Ça me fait toujours marrer. Vous lancez également un label qui n'est pas éphémère, mais appelé à durer, Canal+ Première. Tout d'abord, ça veut dire quoi, un label?
Alors, un label, vous savez, on markete un peu nos cases.
Ouais.
C'est-à-dire pour que nos abonnés se repèrent un peu dans les typologies de films. Donc, on a un label coup de cœur qui est diffusé la plupart du temps le mardi soir et qui est aussi disponible sur MyCanal, qui sont les films pour lesquels on avait eu un vrai coup de cœur sorti en salle et qui sont des films, la plupart du temps, plutôt auteur, mais très quand même grand public. Après, on a un label box-office, qui est un label des gros succès du cinéma français, ce qui a cartonné, qui est diffusé le vendredi soir. Et là, on lance un nouveau label, qui sont les Canal+ Premières. Et les Canal+ Premières, ce sont des films 100% inédits, qui ne sont passés, si je puis me permettre l'expression, Philippe, nulle part ailleurs, et qui ne passeront nulle part ailleurs, et qui vont directement sur Canal+.
Ils sont quand même passés au cinéma.
Ils ne sont pas passés au cinéma.
Ils ne sont même pas passés au cinéma.
Non. Ils viennent directement sur Canal+. Donc, ce sont des films de cinéma, je précise. Ce sont des films qui sont, pour la plupart, sortis en salle des fois dans leur pays d'origine, donc en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, ils ne sont pas sortis. Et après, il y a quelques exceptions dans le contexte sanitaire actuel. Il y a des films qui ne sortent pas du tout en salle. Par exemple, je vais vous annoncer que le 9 décembre, on diffusera The Singing Club, qui est le prochain film avec Christine Scott Thomas par le réalisateur de The Full Monty, qui est une comédie hilarante sur des femmes qui vont se lancer dans une chorale, dans un groupe militaire, dans une garnison. Et ce film devait sortir en salle le 11 novembre en France, et évidemment le 11 novembre il n'a pas pu sortir, et donc il ira directement sur Canal+.
Je recevais il y a quelques minutes Thomas Follin, qui est le directeur de Salto, Netflix à la française, conglomérat qui englobe France Télévisions et le groupe TF1 et le groupe M6. Pourquoi Canal+ n'est-il pas dans Salto, et est-ce que vous pourriez en faire partie un jour?
Alors écoutez, je pense qu'on n'y est pas parce qu'on n'a pas été invité. D'abord, et si on avait été invité, je ne sais pas si on y serait allé, mais en tout cas, on n'a pas été invité. Ensuite, écoutez, moi, Thomas Follin est un ami en plus, donc c'est toujours délicat, mais la télévision payante, c'est un métier. On le voit bien, c'est déjà compliqué quand vous avez des contenus inédits, exclusifs, que vous payez très cher à rentabiliser. Aller faire payer des contenus qui sont gratuits quelques jours après, je pense que c'est pas un modèle simple pour moi.
Vous l'avez dit ?
Oui, je le sais.
Alors, même si je sais que dans votre périmètre, à Canal+, il n'y a pas le football, je ne peux pas ne pas vous en parler. C'est ce matin dans le journal L'Équipe. On va parler des droits de la Ligue 1 du foot, Mediapro. Je vais résumer pour les gens qui ne suivent pas cette affaire extrêmement complexe. Mediapro, le groupe sino-espagnol qui a racheté les droits et qui est censé payer 780 millions d'euros par an à la Ligue professionnelle de football, n'a toujours pas réglé son échéance d'octobre, 172 millions d'euros quand même. En évoquant la crise du Covid, la LFP est en panique, ce qui se comprend, elle craint une cessation de paiement et elle s'est tournée vers d'autres acteurs, notamment Canal+. Canal+, qui a évoqué une offre potentielle autour de 700 millions d'euros pour l'ensemble des droits de la Ligue 1, c'est ce qu'on lit ce matin dans le journal L'Équipe, ça serait un énorme coup pour vous. Alors, coup à tous les sens du terme.
Alors, ça c'est sûr. Coup, écoutez, je ne suis vraiment pas habilité à répondre parce que tout simplement, je n'en sais rien. Et ce dossier est suivi directement par les personnes qui s'occupent de ce dossier, notamment notre président et certainement notre actionnaire. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais très bien qu'on ne fera pas ce qu'on n'a déjà pas fait, c'est-à-dire payer plus que la valeur que nous pensons que ça a. Voilà. Et on voit bien que quand des acteurs le font, ça ne mène nulle part.
Pas de dépenses ostentatoires.
C'est sûr.
D'autant que vous ne seriez pas obligé de payer une somme aussi forte tous les ans. Selon L'Équipe, toujours, le souci de la Ligue, c'est d'obtenir un montant proche des sommes promises cette saison, quitte à ce que ça baisse pour les trois suivantes. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour vous.
Je ne peux vraiment rien vous dire sur ce dossier parce que je suis très honnêtement au courant de rien.
Ils ne vous parlent pas, vous ne les croisez jamais à la cantine?
On se croise à la cantine, mais ça, ils n'en parlent pas.
À l'approche des fêtes, les chaînes publiques rediffusent des Louis de Funès, les chaînes privées des téléfilms de Noël. Et vous avez une programmation spéciale Noël?
Oui, on aura une très jolie programmation spéciale Noël, puisque on va pouvoir partager. On commence Noël le 19 décembre pour les vacances, ouais. Avec rien de mieux que La Reine des Neiges 2, hein, qui est le plus gros succès de l'année.
C'est pas possible.
Et oui, et je ne le chanterai pas.
Non, parce que c'est ça la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est que les parents vont échapper à la chanson Libérée, délivrée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont avoir droit à ça.
Dans un autre monde. Dans un autre monde.
Et vous voulez que les gens se désabonnent?
Non, mais je vous assure que les enfants adorent.
Je sais.
Et vous donc, étiez... on aura aussi Le Prince oublié avec Omar Sy. On a une très belle programmation et on finit l'année. Et je vous dis que cette année, on a besoin de la finir. On l'a fini par le film La Belle Époque le 31 décembre. Et ça va nous faire du bien.
Magnifique film de Nicolas Bedos. Dernière question. En janvier dernier, vous étiez venu en Culture Média pour le lancement d'une nouvelle chaîne Olympia TV.
Absolument.
Chaîne consacrée au spectacle vivant à 100%. Entre-temps, le Covid et le confinement sont passés par là. Quid de Olympia TV? Déjà, est-ce qu'elle existe toujours?
Elle existe toujours et je peux vous dire qu'elle a... Alors, ça fait partie des chaînes qu'on a offertes à nos abonnés aussi pendant la période. Là, c'est-à-dire qu'on l'a donné accès sur toute notre base d'abonnés parce qu'au contraire, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Olympia TV que là puisqu'on est privé de spectacle. Et donc, on peut voir tous les soirs un spectacle. Alors, évidemment, on ne peut plus en tourner en ce moment, mais on en avait en stock. Donc, on tient bon. Et tous les soirs, vous pouvez voir un spectacle sur Olympia TV. On est très content des résultats de la chaîne.
Merci beaucoup, Jean-Marc Jurami. Je retiens cette phrase. La télé payante, c'est un métier. Vous êtes le directeur. Directeur général adjoint des annonces et des programmes payants du groupe Canal+, et vous lancez cette chaîne éphémère Ciné Plus Splendide. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour le zapping du lendemain avec une jolie série française, et justement Bertrand Chameroy pour son écran de veille qui a déjà été gangréné par l'esprit de Noël. Et puis notre invitée, la comédienne et écrivaine Eva Darlan, pour son nouveau roman Les Bruits du Cœur. On va parler également des violences faites aux femmes, combat et cause dans laquelle elle s'est beaucoup engagée. Et puis dans les indispensables Sable, une nouvelle génération de chanteuses féminines et féministes et les nouvelles aventures de Blake et Mortimer, c'est de la BD. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.